Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Alors vous prenez la parole, premier invité du grand rendez-vous. Les auditeurs ont la parole et le professeur Michel Reynaud qui est président du fonds Action Addiction. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va s'intéresser à la consommation de cannabis qui pourrait bientôt être passible d'une simple amende entre 150 et 200 euros. C'est ce que préconise en tous les cas un rapport parlementaire. Aujourd'hui, un consommateur pris la main dans le sac peut écoper d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende, mais la peine, c'est vrai, est très rarement prononcée. Est-ce que cette mesure, donc d'une verbalisation, d'une espèce de contravention pour un fumeur de joint, ça pourrait être efficace ?
Une fausse bonne mesure. C'est-à-dire que les plus de 40 ans vont dire « Ah ben enfin on fait quelque chose », parce qu'on a bien vu l'échec et on va y revenir, puisque même Monsieur le maire le reconnaît. Et donc, il y a des millions de consommateurs de cannabis, il y a à peu près 1 million de consommateurs quotidiens, 3 millions de consommateurs réguliers. Donc on ne pourra évidemment pas mettre une contravention à toute cette population. Là, avec une mobilisation des forces de l'ordre, qui sont essentiellement justement centrées sur une activité inutile qui est d'attraper les consommateurs pour que derrière la peine ne soit pas appliquée parce qu'elle est inapplicable. Donc on le verra peu descendre et ça ne leur donnera pas beaucoup plus de possibilités d'agir sur les grands trafics qui sont le vrai problème.
Quand même. Je vais me faire le porte-parole des policiers. Ils disent que ça fait moins de procédures. Et au moins, ils ne repartent pas avec un sentiment d'impunité. Il s'est passé quelque chose.
Ils ont effectivement, pour la plupart des petits provocateurs, ce sentiment d'impunité. Cette mesure, elle peut diminuer les incivilités, ce qui est à peu près sa seule utilité, puisque c'est en rien une mesure de santé publique. Les rapporteurs ne disent pas que ça va faire diminuer la consommation. Ça stigmatisera un certain nombre de jeunes qui seront un peu toujours les mêmes, qui sont des jeunes des quartiers à comportement provoquant, qui sont beaucoup plus ceux qui auront les contraventions. Et ça ne touchera pas les mineurs, parce que ça ne peut pas toucher les mineurs.
C'est quand même le problème principal. Ils ne peuvent pas être soumis à l'amende, les mineurs.
Les limites du système, c'est que ça fait 15 ans que nous essayons d'expliquer que le cadre est mauvais et que rester à l'intérieur de ce cadre, c'est-à-dire une pénalisation, et à chaque changement de gouvernement, on a des nouvelles mesures visant à être de plus en plus pénalisantes. Ça a été le cas sous Monsieur Sarkozy. Ça revient là sous une forme où la publique ne sait pas si c'est moins grave, puisque LR dit au monde il faut une contravention, le député République En Marche dit il faut maintenir la possibilité délictuelle. De toute façon, ça sera relativement compliqué. Et surtout, ça maintiendra le trafic, qui est le problème principal du cannabis. Alors, le cannabis, c'est pas une bonne chose. Ça rend malade un certain nombre de gens.
Vous êtes addictologue, vous êtes bien placé pour en parler.
C'est moins grave que l'alcool, c'est beaucoup moins destructeur, il n'y a aucun doute là-dessus. Néanmoins, on a des jeunes qui arrêtent leurs études, qui sont plus adaptés dans leur travail. Quelques-uns qui font des épisodes délirants. C'est fumé avec du tabac en France. Donc, il ne s'agit évidemment pas de dire que c'est un produit sans danger. Mais à consommation modérée, comme pour l'alcool à consommation modérée, les risques sont très modérés. Par contre, le danger majeur du cannabis, c'est l'entretien des mafias, de zones entières de la République en dehors de la loi, d'une façon de vivre et de trouver des financements pour toute une population qui est complètement en dehors des lois, ce qui est très malsain. Cet argent de la drogue est par ailleurs utilisé, comme on le sait, pour corrompre, pour les liens entre le terrorisme et le marché de la drogue ne sont pas peu étudiés, mais ça existe. Donc, en soi-même, ça ne soignera pas, ça ne touchera pas les jeunes.
Donc, vous êtes en train de nous faire une plaidoirie pour la légalisation, si j'ai bien compris.
On va en parler dans un instant, professeur Reynaud, évidemment. Est-ce que cette idée-là de verbaliser les fumeurs de cannabis, ça peut être une bonne solution? À l'inverse de ce que dit le professeur Reynaud, vous pensez que oui, vous êtes les bienvenus au 3210, à la fois des fumeurs, vous prenez la parole, à la fois des parents aussi, parce que ce sont régulièrement les mineurs qui sont dans le collimateur, et puis aussi des fonctionnaires de police. Est-ce que ça peut être utile et efficace? Là, vous êtes les bienvenus, vos appels dès maintenant. 3210, on va écouter Magali qui nous passe un coup de fil du Loiret juste après ça. A tout de suite, 3210.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Et avant de reparler de cannabis et d'addiction et d'une éventuelle amende à suivre, nous vous attendons dans quelques minutes au 32-10 pour nous parler de Monsieur Paul Bocuse, qui a disparu ce week-end. Il disait, pour moi, la bonne cuisine, c'est quand on soulève le couvercle, que ça fume, que ça sent bon et qu'on peut se resservir. Alors, est-ce que vous partagez encore ce bon sens? N'hésitez pas à témoigner, 32-10, rendez-lui hommage.
Il disait ça aussi, Monsieur Paul, comme vous dites, Christelle.
Je suis toujours resté sur une cuisine classique. Je suis un homme classique. J'aime que les choses soient identifiables et bien souvent servies avec des os et des arêtes.
32-10, voilà. Vos appels et vos hommages. Évidemment, est-ce que ça a laissé des traces, justement, son passage, selon vous, dans notre monde de la gastronomie? 3-2-1-0, le 32-10, composé par Magali, dans le Loiret. Bonjour Magali.
Bonjour.
On pose la question, bienvenue à vous. Est-ce qu'il faut sanctionner les consommateurs de cannabis par une amende aujourd'hui? Est-ce que vous, ça peut être efficace? Je précise aux auditeurs que vous avez un fils consommateur.
Oui, voilà, on a un fils qui s'est mis à consommer il y a quelques années, 2-3 ans. On n'en sait pas vraiment grand-chose. Et du coup, bah, on a voulu faire de la sanction, nous aussi. Hein, on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il arrête et ça n'a pas marché. Et quand on en discute avec lui, ben, de toute façon, pour lui, la légalisation avant tout. Et en fait, on en est venu à penser la même chose parce qu'on se rend compte que bah, de plus en plus de jeunes fument ce genre de choses. Et que c'est pas de les punir via une amende. De toute façon, la plupart du temps, ils n'auront pas les moyens de la payer parce qu'ils travaillent pas, ils sont un petit peu en dehors de la société. Et que du coup, ça, si, ça engrangera de l'argent pour l'État, mais ça sera tout. Ça sera tout. Il faut vraiment penser à autre chose.
Il est mineur ou majeur, voilà, là?
Alors maintenant, il est majeur, mais d'accord, il était mineur.
Mais il était mineur, mais on ne peut pas légaliser pour les mineurs. Je m'adresse à notre invité.
Attendez, merci.
Professeur Reynaud.
Je complète, je pense qu'il faut sortir du cadre, car le cadre a fait la preuve de son inefficacité. On a la plus grosse consommation de cannabis d'Europe avec la loi la plus répressive.
Alors, la loi du 31 décembre 1970
a été aggravée petit à petit.
An de prison, 3750 euros d'amende.
C'est inapplicable.
C'est jamais appliqué, on est d'accord.
Alors là, maintenant, on va essayer de mettre des contraventions dont on voit qu'elles ne peuvent pas légalement toucher les mineurs. Elles ne mettront en grande difficulté un certain nombre de gens qui ne les paieront pas et dont le conflit s'aggravera avec les pouvoirs publics. Elles stigmatisera une certaine population. Mais le problème n'est pas là. Le problème est la grave. D'abord, c'est le problème majeur, c'est le trafic. Et c'est ça dont il faut réussir à sortir. Et pour en sortir, on vient à la question de la légalisation. Et puis, le deuxième problème, c'est la consommation des jeunes. Bah la consommation des jeunes, évidemment, le cannabis est mauvais pour les jeunes. Tous les psychotropes sont mauvais pour les jeunes. Hein. L'alcool également.
Mais apparemment, ça fait des dégâts beaucoup plus graves chez les jeunes que chez les trentenaires, par exemple.
Il n'y a aucun doute.
Par rapport au développement du cerveau, on est d'accord.
Toutes les études ont montré que plus on consomme jeune, plus les conséquences sont graves. Ça vaut pour le tabac, ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour les jeux d'argent. Et il y a des lois qui, théoriquement, interdisent la consommation de tabac et d'alcool chez les moins de 18 ans. Et les jeux d'argent, elles ne sont pas appliquées. Donc, si on voulait être efficace, il faudrait une politique de prévention et d'action vis-à-vis des addictions chez les jeunes consommateurs. Les sujets plus âgés peuvent être informés, accompagnés s'ils sont malades. La dame, on ne sait pas si son fils en souffre ou pas de cette consommation.
Bah,
c'est pas pareil si c'est un pétard.
Alors, il en souffre, puisque aujourd'hui, nous, on lui interdit et que du coup, il ne peut pas fumer là où il veut. Parce que nous, on ne supportera pas qu'il ait ça à la maison et qu'il fume à la maison. Alors, vous pensez bien qu'il se cache, qu'il va chez d'autres copains, parce qu'après, bah, évidemment, ils se retrouvent ensemble. Et on en souffre tous les deux. Enfin, moi, j'ai très, très mal vécu sa dépendance, mon mari aussi. Et comme vous dites, ça stigmatise un petit peu. On a l'impression qu'on est délaissé pour compte. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour ça, pour les jeunes, mineurs ou pas. Dans les écoles, les lycées.
Quand vous dites dépendance, c'est-à-dire qu'ils fument beaucoup régulièrement?
Oui, ils fument quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour.
Alors,
oui.
Fumer un pétard le soir n'est pas forcément problématique. Il faut garder raison, c'est comme consommer un peu d'alcool. Par contre, plus on consomme, et c'est exponentiel, et plus les complications arrivent. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour votre fils, mais s'il en souffre, il y a des consultations. Il y a des consultations hospitalières, il y a des consultations jeunes consommateurs.
Comment on envoie un jeune adulte qui est majeur en consultation?
Il faut qu'il en ait envie. Il faut que ce soit une entente avec lui-même et ses parents, et qu'il se dise, là ça m'importe plus d'ennuis que de bénéfices, je vais voir comment on peut s'en sortir. sortir. Alors, il y a des réponses, elles ne sont pas très faciles à trouver, elles ne sont pas à la hauteur des besoins pour l'ensemble des addictions. Il n'y a aucun doute, on est très en dessous de ce qu'il faudrait. Il n'y a aucune consultation libérale facile, ou quasiment pas. Mais ce n'est pas à ça qu'on répondra avec une amende. Une amende, ça évitera les incivilités et ceux qui fument dans la rue de façon provocante.
On prolonge le débat, évidemment, et les témoignages des auditeurs. Vous êtes les bienvenus au 32-10 face à ce cannabis, notamment chez les jeunes. Est-ce qu'il faut sanctionner par une amende? Vous dites oui à 67% sur RTL.fr. Alors, vos appels dès maintenant. 32-10, venez témoigner, évidemment, avec le professeur Michel Reynaud. Vous pourrez dialoguer si vous avez des questions à poser. Et vous avez à disposition la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Et un mot d'actualité avant de reprendre notre débat avec ce tweet de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Je ne me présenterai pas à la municipale de 2020. Voilà,
ça peut vous inspirer si vous êtes marseillais, notamment parce que c'est une page qui va se tourner du côté de la cité phocéenne. 32-10, vos prises de parole quand vous le souhaitez. Le standard est accessible dès maintenant. On revient au cannabis donc et à l'idée préconisée par un rapport parlementaire de sanctionner à l'avenir les consommateurs de cannabis par une amende. On va écouter les auditeurs, bien sûr, et Denis qui nous rejoint d'Indre-et-Loire. Bonjour Denis.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bonjour.
Non, Stéphane.
Oui,
désolé.
C'est pas grave. Denis, l'essentiel, c'est vous, vous savez.
Elle est faite. Et bonjour au professeur Vincent. Ben moi, j'ai trouvé ça bien.
Bien. L'amende, parce le principe que... de l'amende
Voilà, parce qu'il n'y a pas que des mineurs qui fument. Le mineur qui se fait toper avec du cannabis, eh bien, les parents sont convoqués, mais ils ne payent pas l'amende, mais ils sont convoqués. Au moins, s'ils ne sont pas informés, ils seront informés que le gamin fume. Et il y a quand même des gens qui fument et qui ont les moyens de se payer une amende. Mmh. Moi, quand je prends 10 km/h sur la route, je paye mon amende et je n'ai pas spécialement les moyens. Sauf que moi, c'est des boîtes qui sont sur le bord de la route qui me chopent bien plus facilement. Et je pense que l'idée est bonne. Et ça dépend aussi de la quantité qu'on trouve sur la personne. Si on trouve, je connais pas les quantités qu'on met dans un pétard, mais si on trouve quelqu'un avec 5 grammes, je sais pas si ça fait plusieurs pétards ou pas, mais après, c'est au-delà de la consommation personnelle, je pense.
Donc vous voudriez que l'amende soit indexée sur le poids, en fait, de ce qu'on a retrouvé sur la personne en question. Oui, d'accord.
Parce que moi, si demain les amendes seront de 90 amendes pour l'excès de vitesse, eh ben, je roulerai à 130 partout. Sauf que c'est pas le cas. Eh ben, on fait pareil. Je sais qu'il y a des cas qui sont difficiles. J'ai entendu l'auditrice avant que malheureusement je plains parce que ça doit pas être facile. Je peux comprendre cette situation. Il y a des situations où il faut adapter le soin, faut essayer de comprendre. Mais il y a des gens qui s'en foutent complètement. Voilà, ils ont les moyens, ils fument leur pétard, 2-3 pétards. Et le jour où ils commenceront à payer des amendes, peut-être que ça va les refroidir.
Ça peut être dissuasif, vous dites, professeur Rey.
Voilà.
Vous ne croyez pas du tout à la dissuasion, vous?
Non, je pense que ceux qui ont les moyens, ils l'achèteront et pour consommer chez eux. Il y a maintenant des moyens de l'avoir sans le faire dans la rue. Et donc, je pense que ceux qui ont les moyens passeront à côté de l'amende. Ceux qui auront les amendes sont ceux qui se font déjà régulièrement attraper. Mais je pense que le problème est pas là. C'est une mesurette qui n'est pas à la hauteur d'un problème extrêmement important. J'insistais tout à l'heure sur les complications de santé chez les gros fumeurs. Et ces complications de santé, c'est orienter vers les circuits et les rendre plus fréquents, plus accessibles, puisqu'on voit bien que notre première auditrice n'y avait pas accès. Et puis le deuxième problème majeur, c'est l'argent de la drogue, plusieurs milliards, le maintien d'une mafia, de trafic, de violence. Jean-Claude Gaudin en a parlé il y a quelques minutes à Marseille, on sait que c'est une catastrophe, à Grenoble aussi. Et c'est pas cette mesure des contraventions qui permettra de mettre fin à ce qui est maintenant installé comme un trafic majeur dans notre société. C'est ça qui me désespère.
Oui. Merci. Oui, Denis, rajoutez.
On a quoi comme solution? Et qu'est-ce que vous avez, professeur, comme solution? Parce que proposez-la. Parce que ça reste un fléau pour les parents qui ne savent plus quoi faire.
La proposition, elle est en trois parties. La première chose, c'est une dépénalisation, régulation, vente dans des lieux spécialisés, qui pourraient être des bureaux de tabac ou qui pourraient être des boutiques spécialisées ou des pharmacies. La question s'est posée à condition qu'il y ait une régulation forte, que ça ne soit pas aux mains du marché, comme c'est le cas aux États-Unis où le marché, lui, tentera de faire consommer plus, qu'il y ait une politique globale de lutte contre les addictions chez les adolescents, politique globale, parce qu'en général le tabac va avec le cannabis, va avec l'alcool, va avec les jeux d'argent, tout ça d'ailleurs un peu dans les mêmes endroits.
Ouais, mais ça c'est le côté transgressif, donc si on légalise, il y a moins le côté transgressif, c'est ça aussi que vous voulez dire, professeur ?
Si on légalise, si on légalise pour les adultes, on peut essayer de mettre en place, je dis bien essayer, parce que c'est pas simple, une interdiction solide et appliquée, et un rejet social des consommations des adolescents et des moins de 18 ans. Je pense que le problème est là, nos auditeurs le voient bien, ceux qui en souffrent sont ceux qui ont des enfants qui consomment. Et la mesure d'une amende, d'une contravention ne réglera pas ce problème-là. Donc elle laisse les enfants, elle stigmatise certaines populations, elle laisse se poursuivre le trafic, donc on peut pas dire que c'est une bonne mesure, c'est une mesure d'annonce.
Et un autre avis, tiens, et surtout un autre témoignage, c'est Nicolas qui nous rejoint, qui a 42 ans. Bonjour Nicolas.
Ouais, bonjour professeur, bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour, bienvenue. Vous avez fumé ?
Non, alors concrètement, moi je n'ai jamais fumé, j'ai tout le temps par contre traîné dans un milieu de fumeurs. J'ai tout le temps eu des amis qui étaient fumeurs dans mon entourage et compagnie. Ce qui s'est passé, j'explique ce qui m'est arrivé ou...
Oui, allez-y.
Voilà, très concrètement, moi j'ai tout le temps traîné avec des amis qui fument le shit. Hein. Moi j'ai tiré deux, dans ma vie j'ai dû tirer, je sais pas, peut-être trois lattes de pétard, ça m'a jamais branché plus que ça. Malheureusement, il y a 10 ans, je sortais de chez des amis où j'allais très régulièrement. Les amis fumaient, j'en ai inhalé du shit. Je me rappelle avoir eu la tête qui tournait, je suis sorti de chez mon ami et je suis allé mon café-mets sur un 38 tonnes. Voilà, et je pense que le fait d'avoir inhalé du shit a dû contribuer à ce que je sois devenu aveugle suite à cet accident.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc pour vous, c'est le shit qui est responsable parce que vous saviez plus très bien où vous étiez, quoi.
Voilà, je dis pas qu'il est totalement responsable. J'avais pas d'alcool, j'avais strictement rien. Je roulais tout doucement, mais je me souviens parfaitement avoir eu la tête qui tournait et plus me souvenir. Donc je pense que oui, effectivement, le cannabis a contribué. Donc moi, on tente de dire qu'il faut mettre des amendes aux fumeurs de shit. Pour moi, c'est pipeau total. La bataille, elle est perdue, de toute façon, contre le cannabis. Moi, je pense qu'il y a des contrôles d'alcoolémie. Il faut systématiquement contrôler les personnes au niveau cannabis. C'est taper au portefeuille au niveau du permis, quoi.
Il y en a de plus en plus, hein. Ça se généralise, Nicolas. Ça,
voilà. Puis sans parler de mon cas, je connais des personnes qui fument, qui prennent le volant, et jamais je monterai dans leur bagnole après que j'ai fumé quelques pétards, quoi. Je pense, si le professeur est d'accord avec moi, il faut sanctionner systématiquement ces volants cannabis, ces retraits de permis, point, quoi.
Oui,
parce que là, on est dans la régulation. La régulation, ça veut justement pas dire que tout est permis sans aucun contrôle. Tout ce qui met en danger autrui doit être interdit. Et la conduite sous l'effet de produits, comme sous l'effet de l'alcool, ne peut pas être autorisée. De même qu'il faut essayer de l'arrêter chez les femmes enceintes, qu'il faut essayer de ne pas fumer lorsqu'on a des enfants petits. Enfin, il y a des mesures de prévention qui sont à peu près connues dans les pays qui l'ont déjà fait, de façon à limiter les dégâts des consommations.
Merci à Nicolas qui a témoigné et à Denis qui nous a appelé pour donner son sentiment. Ça se passe au 32-10. On prolonge tout cela dans un instant. 3-2-1-0.
12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Dans un instant, on va parler cuisine, figurez-vous. On va accueillir un jeune chef étoilé de 36 ans seulement pour saluer l'immense carrière gastronomique de M. Paul Bocuse qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 91 ans. On va s'interroger avec vous, chers auditeurs, si vous êtes des amateurs de cuisine, et Dieu sait si les Français aiment la cuisine et cuisinent beaucoup, justement, si Paul Bocuse, ça vous a inspiré, pourquoi pas, si vous avez eu la chance un jour d'aller dans son établissement pour goûter justement ses déjeuners déjeuner ou ses dîners, bah vous êtes les bienvenus. Tiens, parlons de Paul Bocuse et de sa marque, son empreinte sur la cuisine française. Vos témoignages dès maintenant au 32-10.
On revient à notre débat. Faut-il sanctionner les consommateurs de cannabis par une amende? Beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole, Laurent Tessier.
Ça ne servira à rien, écrit La Plaine. Les consommateurs ne paieront jamais les amendes. Ils sont pratiquement tous insolvables. Pour Véro, l'amende n'est qu'un moyen d'encaisser des millions d'euros du pur racket. Si le problème est le manque de policiers, de juges, écrivent, alors j'ai la recette miracle, il suffit d'en recruter. Attention sur ce sujet quand même, nous dit Vladimir, il faut conserver l'aspect pénal, ne serait-ce que pour la prévention. Ceux qui condamnent l'usage du cannabis sont des ignorants, écrit Alexandre. Arrêtons d'accuser les consommateurs, essayons de les comprendre, de comprendre aussi tous les enjeux sociaux et économiques. Un commentaire qui fait réagir sur la page Facebook Raymond: quand les consommateurs de cannabis provoqueront un accident, ce seront les signataires de la dépénalisation qui seront responsables.
Vos commentaires au 3210, merci Laurent Tessier, et tous vos avis, vos commentaires sur l'actualité sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole au standard depuis Nantes, c'est Julien qui nous rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour.
28 ans.
C'est ça, et un ancien gros fumeur de cannabis. Mm-hmm. Et je vous appelle parce que moi je suis plus pour une amende de 200 euros. Parce que quand j'étais jeune, je me suis fait arrêter plusieurs fois par la police. Et un consommateur, il est malin. Il a jamais toute sa dope sur lui. Il a toujours une petite quantité. Et quand on se fait arrêter par la police, ils nous font la morale, ils prennent nos morceaux, ils nous prennent notre nom. Et puis, ça s'arrête là. Mais par contre, quand j'avais 16-17 ans, nos parents sont toujours nos tuteurs, hein, c'est toujours eux qui nous gèrent. Si mes parents avaient eu une amende de 200 euros à payer parce que je fumais des pétards, je pense que ça m'aurait calmé. Mmh. Et après, je me suis retrouvé après à 21, 22 ans à fumer autant de pétards que peut avoir un paquet de cigarettes dans une journée. Une consommation, moi, d'environ 30 grammes, donc c'est énorme. Et du coup, je me dis que ça pourrait être bien. Et aussi, j'ai un avis sur si ça pouvait être légalisé. Ce serait bien que ce soit légalisé en France, mais par contre, il faudrait une législation qui serait énorme. Il faudrait, par exemple, qu'on ait une carte, qu'on soit référencé et qu'on n'ait pas le droit, par exemple, d'aller prendre par mois au retrait avec tout un service informatique partout en France, pas le droit à plus de 5 grammes. Ce serait, je pense que ce serait très bien pour vraiment avoir une consommation, comme on pourrait dire, occasionnelle et pas régulière. Mmh.
Donc hyper encadrée pour qu'elle soit effectivement occasionnelle. Professeur Reynaud, puisque vous êtes plutôt favorable à la légalisation.
Je suis favorable à l'encadrement.
Justement, oui. L'un ne va pas sans l'autre.
Après, ils font regarder les modalités pour que ça soit faisable, que la dimension plaisir qui va avec reste possible pour ceux qui le souhaitent, que l'information sur les dangers soit claire, précise, intégrée, préparée longuement à l'avance avant un éventuel changement de législation, que l'on protège, on l'a vu, les moins de 18 ans. Monsieur était un assez gros fumeur, il s'en est sorti. Il a dû passer des moments un peu compliqués.
Julien, ça a été difficile de décrocher.
Je vais vous dire, du tout, du jour au lendemain. Ça m'arrive encore occasionnellement dans des soirées ou entre amis, quand il y a quelqu'un, je fume sur un pétard. Mais je n'ai pas jamais eu cet effet de manque-là. Je pense qu'il y a aussi la relation qu'on peut avoir avec la drogue. Il faut toujours savoir que moi, si j'en avais pas, c'était pas grave si j'en trouvais pas. Mmh. J'allais pas péter une durite, pas un câble. Mmh. Mais il y a vraiment une relation. Et moi, je pense qu'une législation, il faudrait vraiment, mais une législation qui soit dure. Un petit peu prendre exemple sur je crois que c'est à Barcelone où ils ont ça, ils ont des cartes où ils vont, ils sont fichés à l'État, hein. C'est bête à dire, mais être fiché, hein. Comme ça, ça pourrait aussi permettre de savoir combien il y a de consommateurs en France. Et aussi, ça pourrait quelque chose qui pour moi est important, parce que j'ai remarqué ça. J'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. J'ai arrêté à 27, donc ça va faire un an. Moi, j'ai trouvé que les pétards que je fumais à 24 ans, ils étaient beaucoup plus forts que les pétards que je fumais à 15 ans. Et je pense qu'une législation où l'État pourrait gérer le taux de THC, parce que c'est
ça le problème.
Dur. Oui. Moi, j'ai bien vu qu'à la fin, ça me démontait, quoi. Alors, je me suis dit, je vieillis, c'est pas possible. Mais non, c'est que le THC était beaucoup plus fort.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé du produit en lui-même, mais c'est un vrai problème, professeur.
Absolument, puisque dans la mesure où c'est illégal, on n'a aucun contrôle sur ce qu'il y a dedans, et les trafiquants parfaitement compris et qu'il faut augmenter la quantité de THC. Et on était à 5% de THC dans les années 70-80, on est à 20, 30, 40%. Alors donc, en 10 ans, vous avez raison, monsieur, ça a beaucoup changé et c'est pas étonnant, c'est pas parce que vous vieillissez, c'est parce que le produit est beaucoup plus fort. Et puis vous n'étiez pas gravement dépendant, vous fumiez quand même pas mal, mais vous avez eu la chance de pouvoir contrôler. Et il faut savoir que la plupart des consommateurs de cannabis reviennent à des consommations, arrêtent ou reviennent à des consommations extrêmement limitées vers une trentaine d'années.
Merci professeur Reynaud, président du fonds Action Addiction, d'avoir participé à ce débat justement sur ce cannabis et cette question. Est-ce qu'il faut sanctionner les consommateurs de cannabis par une amende? On y reviendra évidemment après ce rapport parlementaire. Vos commentaires encore et toujours sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Je vais me retourner vers Julien, justement, qui nous parlait de cannabis il y a quelques instants. Je crois qu'il est cuisinier de profession, si je ne me trompe pas. Julien, vous êtes toujours là ?
Oui, oui, mais je suis cuisinier. J'ai été triste, très triste.
Bah voilà, justement. Qu'est-ce que ça représente, vous qui avez 28 ans, ça représente quoi ?
Qu'est-ce que ça représente ? Bah, Paul Bocuse, ça représente, franchement, moi, je suis né, il était déjà bien en place. J'ai étudié à l'école ses recettes, j'ai étudié même ce qu'il avait pu mettre en place, parce que ça a été un des tout premiers chefs médiatisés. Il a quand même monté une économie autour de son image. Mmh. Il a utilisé son image. Je pense que ça a été le précurseur d'aujourd'hui de tous les chefs qu'on voit un petit peu médiatisés. Et c'est une référence, quoi.
Mmh. Quand vous dites « j'ai étudié ses recettes », est-ce que vous en souvenez ?
Les quenelles de brochet, oui, je m'en souviens. Hein.
voilà.
Je vais pas me souvenir de tout, mais ouais. Même ses dressages, il avait des dressages, puisque maintenant on voit des dressages très compliqués, qui sont très jolis, très visuels. Ouais. Il avait quand même des dressages à la base qui étaient très simplistes.
Le dressage, c'est l'art de l'assiette, mise en scène de l'assiette, on va dire.
Mais par contre, il avait le goût, et puis il était toujours... j'ai jamais pu travailler avec lui, mais j'ai eu des gens qui ont travaillé avec Paul Bocuse, où j'ai pu travailler avec, et il me disait que c'était un chef qui était quand même présent en cuisine. Il avait beau être un peu partout, il était quand même là. Mmh. Il avait quand même son mot à dire et son œil sur tout, ce qui n'est plus trop présent.
Pas toujours le cas chez les grands.
Chez les grands, des fois, même si ils ont fait leur métier, hein, je le respecterai, je les croise dans la rue, je les saluerai volontiers. Mais ouais, non, on a perdu un très grand bonhomme. Moi, j'espère qu'il sera mis au Panthéon, parce que franchement, il le mériterait.
Panthéon de la cuisine, pourquoi pas. Hein.
Ouais.
Julien, vous restez là, vous pouvez écouter avec plaisir, bien sûr. Vous êtes le bienvenu. On va accueillir un jeune chef étoilé qui a 36 ans, qui est Akram Benalal, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Restaurant gastronomique Akram à Paris. Est-ce que vous diriez la même chose, que Julien, ou encore plus ?
Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tristesse, je crois, de la part de tous les cuisiniers, aussi bien en France que le monde entier, parce que je crois qu'au-delà de la France, il a su traverser le monde entier. Tout le monde connaît Paul Bocuse. Et je crois que il était le seul à pouvoir faire ça.
Ah bah écoutez, le New York Times a fait une alerte au moment de sa mort samedi, imaginez, donc c'est extraordinaire, ça n'est arrivé que récemment que pour Johnny Hallyday. Donc on mesure ce que signifie le pape de la gastronomie, parce qu'on a l'impression que c'est une expression toute faite comme ça, mais cet homme est purement exceptionnel.
Absolument, il est exceptionnel, et pour moi c'était Monsieur France, vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que au-delà de la gastronomie, il était fier de faire partager avec lui toute la culture française, aussi bien, il y a la gastronomie, mais aussi les vins, les producteurs, le terroir. Donc il emmenait toujours avec lui cette France dans ses bagages à travers le monde, et ça c'était le seul à le faire. Et au-delà de ça surtout, c'est que c'était un homme exceptionnel. Moi j'ai pas eu la chance de pouvoir le connaître, j'ai déjeuné chez lui deux fois. Une première fois où j'ai eu tellement d'émotions que j'y suis retourné 15 jours après. Et surtout quand il a fait son passage en salle, il m'a posé sa main sur mon bras gauche, je me rappellerai encore. Et c'était... j'ai senti quelque chose comme si j'étais béni, quoi.
Et il savait que vous étiez un professionnel ou pas, justement?
Oui, il savait.
Bien sûr.
Il adore recevoir les chefs.
Vous êtes senti adoubé.
C'était un lieu de chef. C'est ça.
Vous restez avec nous, Akram Benalal. Ouais. On fait une petite pause et puis on poursuit cette conversation avec vous. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Et nous rendons hommage à Monsieur Paul Bocuse. Il disait « La véritable cuisine sera toujours celle du terroir. En France, le beurre, la crème et le vin en constitueront toujours les bases. » C'est toujours vrai à Cram-Bénanal ? Parce que le beurre et la crème, un peu moins qu'avant quand même, non ?
Mais pourquoi ?
Un peu moins, mais il y est toujours, c'est ce qui donne le goût quand même.
Voilà. Oui.
C'est ce qui rassemble, et c'est vrai que le beurre et la crème, ça crée un lien dans le plat, non ? On mange quand même un peu moins de matière grasse, mais c'est vrai que le beurre, la crème, le fromage, c'est quand même, c'est ça qui est bon. Mmh.
Vous êtes inspiré de son savoir-faire, vous lui avez piqué des trucs, entre guillemets ?
Alors, piquer, non, mais je pense qu'on est tous inspirés par sa manière de faire la cuisine, mais au-delà de ça surtout, c'est quelqu'un qui m'a surtout inspiré dans le sens où rien n'était impossible. C'est-à-dire qu'il a fait de son restaurant aujourd'hui un restaurant qui est connu mondialement. Il a su, c'était le premier à sortir de la cuisine et aller développer d'autres restaurants à l'étranger. Mmh. Et c'est vrai que pour nous, les jeunes qui démarrons et qui avons aussi des rêves, c'est bien d'avoir un mentor comme lui pour justement nous dire que c'est possible.
On va dans Lyon écouter Alain qui est aubergiste. Bonjour Alain, bienvenue.
Oui, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et donc, bien sûr, un petit peu comme tous les gens qui viennent d'en parler, un peu triste, un petit peu le cœur pincé d'apprendre cette nouvelle. Voilà, il est parti presque au même âge de son meilleur ami qui était Jean Duclos. Et je sais que j'avais eu le bonheur de partager une table à côté du grand Paul et puis de Jean Duclos à Tournu. Et j'ai eu le bonheur d'être assis. Il est venu s'asseoir à ma table chez lui. Et nous avons discuté une demi-heure, on essayait de refaire le monde, j'ai un petit peu le cœur serré. Mmh. Et aujourd'hui, je passe un petit coup de fil un peu au nom de l'Académie culinaire, des maîtres cuisiniers de France, ainsi que de l'Amicale des cuisiniers de Lyon, tout simplement. Et je revendique le droit de dire à l'antenne que nous allons accompagner au paradis de la haute gastronomie quelqu'un d'exceptionnel, quoi. C'est Albert Camus, c'est notre grand mentor, quoi. Mmh. Et en plus de ça, moi, je suis un grand défenseur de la cuisine classique et de la formation des jeunes de par les maîtres cuisiniers de France. Et il faut quand même pas oublier de dire qu'il a créé une école exceptionnelle. Absolument. Et en plus de tout le reste, quoi. Mmh. Voilà.
Mmh. Akram Benalal, il a été 3 étoiles durant plus d'un demi-siècle. Ça, oui. C'est quand même une performance extraordinaire et extrêmement difficile à tenir. C'est une pression fantastique sur les épaules d'un restaurateur.
Absolument, absolument. Et il a réussi à les maintenir. Et puis surtout, le monsieur avant avait parlé de transmission. Mmh. Et moi, je crois que surtout, il a réussi à créer la transmission et la diversité aussi. Et c'est ce qui fait tout, toute sa différence entre lui et les autres, quoi.
Et les autres,
c'est-à-dire
oui.
Paul oui. est. Voilà, c'est l'unique.
Et il avait senti la mondialisation de la cuisine avant tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Akram Benalal d'avoir témoigné sur RTL. Merci aussi à Alain qui était aubergiste dans Lyon d'avoir témoigné.
Vous écoutez RTL.